VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le monde aujourd'hui. Eric Manelakis à la présentation de cette édition du mercredi 7 avril 2021. Voici d'abord le sommaire. Feu vert du président Ouattara au retour en Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé.
Quant à messieurs Laurent Gbagbo et Blé Goudé, ils sont libres de rentrer en Côte d'Ivoire quand ils le souhaitent pour que monsieur Laurent Gbagbo bénéficie, conformément au texte en vigueur, des avantages dus aux anciens présidents de la République.
Au Niger, le président Mohamed Bazoum a nommé son premier gouvernement. Génocide au Rwanda, le président Kagame salue le rapport Duclert sur le rôle de la France dans le génocide de 1994. Le G20 prolonge de 6 mois le moratoire sur la dette des pauvres et demande au FMI d'accorder de nouveaux prêts aux pays pauvres touchés par la pandémie. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord, le journal. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a affirmé ce mercredi que l'ancien président Laurent Gbagbo et son ex-ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé, sont libres de rentrer en Côte d'Ivoire quand ils le souhaitent. Il a ajouté que M. Gbagbo bénéficierait de l'accompagnement de l'État ivoirien. Mohamedou Oumfa nous en dit plus.
C'est à l'ouverture du Conseil des ministres à Abidjan que le président Ouattara a évoqué le sort de son prédécesseur définitivement acquitté de crimes contre l'humanité par la CPI le 31 mars dernier. Messieurs Gbagbo et Blé Goudé sont libres de rentrer en Côte d'Ivoire quand ils le souhaitent, a-t-il fait savoir. Les frais de voyage de l'ancien président et des membres de sa famille seront pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire, a-t-il ajouté, tout en précisant que des dispositions seront prises pour que Laurent Gbagbo bénéficie des avantages et indemnités dus aux anciens présidents de la République, conformément au texte en vigueur. Le président Ouattara n'a pas évoqué la condamnation en Côte d'Ivoire de M. Gbagbo à 20 ans de prison pour le braquage de la BCAO pendant les violences post-électorales de 2010 à 2011. Mais Amadou Koulibaly, le nouveau ministre de la Communication, a laissé entendre que cette condamnation serait levée. On ne va pas offrir le voyage à Gbagbo pour le mettre derrière les barreaux, a-t-il affirmé lors d'une conférence de presse après le Conseil des ministres. Nous nous félicitons de cette décision, de nature à donner un nouvel élan à la réconciliation nationale, a pour sa part déclaré Simplice Seri Zoku, un des avocats de Charles Blé Goudé.
Le nouveau président du Niger, Mohamed Bazoum, a signé un décret portant nomination des membres de son gouvernement. Les précisions avec notre correspondant à Niamey, Abdourahman Idrissa.
L'équipe du Premier ministre Ahmadou Mahamadou est composée de 33 membres, dont 5 femmes. Elle est de loin moins longue que toutes les précédentes. Elle est aussi plus jeune, même si certains cadres du parti sont encore présents. C'est le cas de Massaoudou Hassoumi qui prend la tête des affaires étrangères et signe ainsi le calumet de la paix avec Mohamed Bazoum qu'il a voulu challenger lorsque le parti devait désigner son candidat à la présidentielle en 2019. L'ancien chef rebelle Rissa Agboula est maintenu ministre d'État à la présidence comme sous le régime de Issoufou Mahamadou, dont le fils Mahamane Sani se voit attribuer le très réservé portefeuille du pétrole. Issoufou Katambe quitte le ministère de la Défense sans que la lumière ne soit faite sur le plus gros scandale financier du régime précédent. C'est Alkassoum Indatou, très proche de Mohamed Bazoum, qui le remplace. Le ministre de l'Intérieur, Alkash Alhada, est lui maintenu à son poste. L'annonce de cette nouvelle équipe du Premier ministre Ahmadou Mahamadou a été faite quelques heures seulement après sa prestation de serment devant l'Assemblée nationale qui ouvrait les travaux de sa première session sous la présidence de Seyni Oumarou. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Dans les Grands Lacs, le président rwandais Paul Kagame a salué mercredi le rapport Duclert sur le rôle de la France dans le génocide de 1994 au Rwanda. Il estime que cela marque un important pas en avant vers une compréhension commune de ce qu'il s'est passé. Abdourahmane Dia.
Le rapport remis le 27 mars au président français Emmanuel Macron marque aussi un changement. Il montre un désir même chez les dirigeants en France d'avancer avec une bonne compréhension de ce qu'il s'est passé. Nous saluons cela, a ajouté Paul Kagame dans un discours lors des cérémonies de commémoration du génocide. Pour le président rwandais, l'important est de continuer à travailler ensemble à documenter la vérité. Il a indiqué que le Rwanda aura aussi son mot à dire dans un avenir proche, peut-être lors de la troisième semaine de ce mois, en référence à un rapport sur le sujet mené par une commission rwandaise. Le rapport français, dirigé par l'historien Vincent Duclerc, est accablant pour les autorités françaises de l'époque. La France porte des responsabilités lourdes et accablantes dans la tragédie, notamment en étant demeurée aveugle face à la préparation du génocide, a conclu le document, qui exclut toutefois la thèse de la complicité. Mercredi, la France a annoncé l'ouverture d'importantes archives sur le Rwanda pour faire avancer la vérité historique sur le génocide des Tutsis en 1994.
La chef de la mission des Nations Unies au Congo, MONUSCO, a exprimé mercredi sa préoccupation face aux appels à la violence contre sa structure dans l'est de la RDC, dans les zones de Beni, Butembo et Lubero. Ces appels sont dirigés contre les humanitaires et les institutions nationales et internationales, notamment la MONUSCO, indique un compte-rendu de la mission. Les casquets bleus sont accusés de passivité par des populations. Au Nigeria, un poste de police a été attaqué mardi par des hommes armés dans le sud-est du pays, au lendemain de l'attaque d'un commissariat qui avait permis une évasion massive de prisonniers. Une opération des forces de sécurité est en cours. Nathalie Barge.
Le poste de police d'Emembano dans l'état d'Imo a été pris d'assaut et 3 véhicules ont été incendiés, a indiqué la police locale. Selon les médias locaux, des détenus ont été libérés par les assaillants. Les autorités imputent les attaques contre les forces de sécurité dans le sud-est du Nigeria au groupe indépendantiste IPOB, qui a démenti toute implication. Les groupes sécessionnistes réclament toujours un État indépendant un demi-siècle après la guerre civile du Biafra, qui a fait près d'un million de morts. Lundi, des assaillants lourdement armés ont attaqué un commissariat à Oweri, permettant l'évasion de plus de 1800 détenus. Lors d'une visite hier dans l'état d'Imo, le vice-président Yemi Osinbajo a appelé la population à ne pas se laisser entraîner dans le conflit et les troubles.
L'Éthiopie s'est déclarée mercredi déterminée à continuer à remplir le méga barrage qu'elle construit sur le Nil, malgré le contentieux persistant avec l'Égypte et le Soudan en aval du fleuve.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Agence européenne des médicaments, EMA, n'a pas identifié mercredi de facteurs de risque spécifiques concernant le vaccin AstraZeneca, estimant qu'une explication plausible à des cas rares de caillots sanguins pourrait être une réponse immunitaire. L'EMA a établi un lien possible avec de très rares cas de caillots sanguins inhabituels avec des plaquettes sanguines basses, a déclaré l'agence basse à Amsterdam dans un communiqué, indiquant toutefois que la balance bénéfice-risque restait positive. Le G20 a annoncé mercredi, lors d'une réunion virtuelle présidée par l'Italie, une nouvelle extension de 6 mois jusqu'à fin 2021 du moratoire sur la dette des pays les plus pauvres, durement frappés par la pandémie de coronavirus. Le point avec Rosine Mounezer.
Nous avons décidé de prolonger l'initiative de suspension du service de la dette des pays les plus vulnérables jusqu'à fin 2021, a déclaré devant la presse le ministre italien de l'économie, Daniel Franco, ajoutant qu'il s'agit de la dernière extension. Le G20 a demandé au FMI d'augmenter son aide aux pays les plus vulnérables frappés par la pandémie sous la forme d'une nouvelle émission de droits de tirage spéciaux, DTS, d'un montant de 650 milliards de dollars. Autre sujet, les grands agentiers du G20 devraient se prononcer sur la proposition américaine de relancer le chantier d'un impôt minimal mondial sur les sociétés. Elle porte aussi sur un système visant à moduler l'impôt sur les sociétés en fonction des bénéfices réalisés dans chaque pays, indépendamment de leur établissement fiscal. Les négociations sur cette réforme menée sous l'égide de l'OCDE avaient échoué à l'automne à cause du blocage américain. Mais le changement d'attitude de la nouvelle administration nourrit l'espoir d'un accord à l'été. Selon le FMI, l'économie mondiale devrait se remettre plus vite que prévu de la pandémie, avec une croissance de 6% cette année.
D'anciens conseillers de Donald Trump ont annoncé mercredi le lancement d'un groupe de conseil juridique destiné à agir en justice pour protéger le bilan de l'ex-président des attaques de la gauche radicale menées, selon eux, par son successeur Joe Biden. Le président Trump a salué l'initiative de son ancien conseiller Stephen Miller, qui a joué un rôle central dans la définition de sa politique migratoire, et de son ex-chef de cabinet, Mark Meadows. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Dans l'actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco signée Michel Claire-Joseph.
Les efforts en vue de s'adapter aux effets du changement climatique sont en cours en Afrique. Ils vont de la mise au point de variétés végétales résistant à la chaleur aux assurances pour aider les pays victimes de catastrophes naturelles à se reconstruire. Toutefois, ces efforts sont lents et menacés par la pandémie du Covid-19, ont averti les leaders africains mardi. Seulement 3% des financements destinés à atténuer les effets du changement climatique parviennent à l'Afrique, a fait remarquer Akinwumi Adesina, président de la Banque africaine de développement, lors d'une réunion en ligne visant à recueillir les avis des dirigeants africains sur la question. La BAD a annoncé en début d'année qu'elle mobilisera 25 milliards de dollars d'ici 2025 en faveur d'initiatives d'adaptation aux effets du changement climatique. La Banque africaine de développement a octroyé un prêt de 170 millions de dollars à l'Égypte pour améliorer la sécurité de son réseau ferroviaire. Une aide qui fait suite à la collision entre deux trains qui avait fait 18 morts le mois dernier dans le sud du pays. Le prêt sera utilisé pour améliorer la sécurité opérationnelle et accroître les capacités du réseau ferroviaire égyptien, a indiqué la BAD, ce qui, a-t-elle dit, profitera aux Égyptiens à bas revenus qui dépendent du train pour leurs déplacements.
Et sans transition, nous passons à votre page d'espoir avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Ligue des champions ce soir en Europe. Le Paris Saint-Germain affronte le Bayern Munich. En quart de finale aller, sans son attaquant Mauro Icardi, ni son défenseur Levin Kurzawa, blessé. Autres absents, Marco Verratti et Alessandro Florenzi, pour cause de Covid-19, ainsi que Leandro Paredes, suspendu. Le second quart de finale opposera le FC Porto du Malien Moussa Marega à Chelsea du portier sénégalais Edouard Mendy et du Marocain Hakim Ziyech. Hier, le Real Madrid a puni la défense fébrile de Liverpool 3-1. Les Reds ont préservé une petite chance de qualification avec le quatrième but en quatre matchs de Ligue des Champions de l'Égyptien Mohamed Salah. De son côté, Manchester City s'est fait peur à domicile devant Dortmund battu 2-1. Ici, en NBA, les Philadelphia Sixers, avec le retour aux affaires de Joel Embiid, se sont imposés sur le parquet des Boston Celtics la nuit dernière. Ils reviennent à hauteur des Brooklyn Nets qui n'ont pas joué en tête de la conférence Est. Le point avec Bagassi Koura.
Oui, la star camerounaise des Sixers a encore frappé contre les Celtics. Pour son deuxième match depuis son retour de blessure, Joel Embiid a réussi 9/19 au tir, 16 lancés francs sur 20 pour un total de 35 points. De leur côté, les Milwaukee Bucks ont perdu dans la salle des Golden State Warriors, vainqueur sur le fil 122-121 avec un brillant Steph Curry qui a marqué 41 points. Dixième donc à l'ouest, Golden State peut encore accrocher une place pour les playoffs. Dans la conférence ouest, les Los Angeles Lakers, malgré les absences de LeBron James et Anthony Davis, blessés, ont battu les Toronto Raptors de l'autre Camerounais Pascal Siakam 110-101. Toujours à l'ouest, les Clippers ont donné un récital offensif face aux Phoenix battus 133-116. Denver a dominé Détroit sur un score presque identique, 134-119.
Toujours ici, aux États-Unis, le Comité olympique et paralympique américain réaffirme son opposition au boycottage des Jeux d'hiver de Pékin en février 2022. Les boycotts de la part des sportifs ont prouvé avoir des conséquences négatives sur les athlètes. tout en répondant aux problèmes internationaux de manière satisfaisante, a justifié Suzanne Lyons, la présidente du Comité olympique américain, refusant l'idée que les espoirs de médailles américains soient utilisés comme des pions sur l'échiquier politique. Madame Lyons insiste, je cite, « Pour nos athlètes, le seul rêve est de représenter les États-Unis d'Amérique. »
C'était les sports de Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manelakiza toujours avec vous. Place au dossier du jour. Le Rwanda commémore ce 7 avril le génocide de 1994 au cours duquel au moins 1 million de Tutsis furent massacrés. Ce jour marque aussi le début du deuil national. Plusieurs cérémonies sont organisées officiellement à Kigali, mais aussi en privé par des familles endeuillées à travers le monde. Au Rwanda, les proches des victimes se rendent au mémorial du génocide à Kigali pour leur rendre hommage. Honoré Gatera dirige le centre du mémorial de Kigali, où sont enterrés les restes de plus de 250 000 personnes. Nanit Talani l'a joint au téléphone.
La commémoration, c'est le moment pour le peuple rwandais de rendre hommage aux victimes du génocide, de penser à ce qui s'est passé dans notre pays. C'est le moment de réfléchir à l'histoire qu'on a vécue, parce qu'un génocide se prépare. On a vécu dans l'idéologie de la haine et des divisions jusqu'au génocide. On a un bon nombre de Rwandais qui sont en jeune âge. Parmi eux, il y a un bon nombre qui n'a pas vécu physiquement le génocide, mais bien sûr ont vécu dans les conséquences, que ce soit physique ou psychologique. C'est le moment de se mettre ensemble encore comme Rwandais pour réfléchir ce que représente ce passé et notre présent qui nous aide à préparer le futur. On a une mémoire qui toujours nous dit qu'on a perdu plus d'un million de Tutsis tués pendant le génocide. On aimerait continuer ensemble comme les Rwandais unis, qui veulent construire une nation forte, qui prépare un meilleur avenir pour la génération nouvelle du Rwanda.
Comment est-ce que cette commémoration permet de réconcilier les Tutsis et les Hutus et toutes les personnes qui vivent au Rwanda?
Tout initialement, quand on parle de la réconciliation, c'est parce qu'il y a eu un moment ou un événement qui a amené la population à se séparer. Donc, on parle de l'unité et de la réconciliation parce qu'on a vécu dans les divisions, on a vécu dans les idéologies génocidaires et on a vécu un génocide. Tout le monde qui dirait que la mémoire ou la commémoration d'un génocide ne contribue pas à la réconciliation aurait tort. Parce qu'on se réconcilie pour le moment et dans l'avenir parce qu'on a vécu un génocide. Donc, garder la mémoire, c'est un outil qui toujours nous enseigne ce qui nous a séparés et la raison pour laquelle nous devons nous unir, nous devons nous réconcilier comme un peuple qui n'est pas Tutsi, qui n'est pas Hutu, qui n'est pas toi, qui n'est pas, je dirais, d'autres groupes, mais un peuple qui connaît le fruit des divisions, le fruit de la haine, le fruit d'un mauvais leadership. Et pour cette raison, un peuple qui aimerait bien se mettre ensemble et s'unir pour reconstruire le pays et construire un avenir meilleur.
Vous dirigez le mémorial du génocide de Kigali. Qu'est-ce que le musée représente pour les familles des victimes surtout?
Tout le mémorial, non seulement le musée, le présente une deuxième maison, une deuxième famille pour eux. Parce qu'ils disent que c'est là où ils peuvent visiter leur famille emportée par le génocide. Ils disent souvent, quand on est ici, on pense qu'on est à la maison, on est en famille encore. C'est là où ils ont une connexion avec l'erreur qu'ils ont perdue il y a 27 ans.
Honoré Gatera, directeur du Centre du Mémorial de Kigali.
VOA Afrique, à Kigali, au Rwanda, sur 104.3, 24h sur 24.
Au Tchad, volte-face de l'ancien rebelle passé à l'opposition, le général Bala Ladé, dont la candidature à la présidentielle du 11 avril a été invalidée par la Cour suprême. En exil à Dakar, au Sénégal, il était rentré à la suite d'une négociation que le président Idriss Déby Itno a eue avec lui pour qu'il vienne soutenir sa candidature. Sur le terrain, des acteurs politiques constatent des erreurs d'ordre matériel au niveau de la CENI qui, selon eux, pourrait entacher la crédibilité de cette élection. André Kodmadjingar, correspondant de VOA Afrique, fait le point de N'Djamena.
En exil pour ses ennuis avec le régime de N'Djamena, l'opposant Babalade rallie son adversaire d'hier, le président candidat Idriss Déby Itno, avec armes et baluchons pour soutenir sa candidature. Un retour sans coup et férir alors qu'au lendemain de sa disqualification pour être candidat à la magistrature suprême du 11 avril prochain par la Cour suprême, Babalade avait soutenu les actions citoyennes des forces vives pour exiger le dialogue inclusif avant la tenue de cette élection. Il donne les raisons de son revirement en pleine campagne électorale.
Il y a toujours un temps pour toutes choses. Les Tchadiens ont beaucoup souffert. Donc moi, si je suis revenu, j'ai choisi la voie de la paix. Nous voulons que ce pays retrouve vraiment l'unité de son peuple. Et l'unité ne se fait pas dans l'opposition. Bon, j'ai fait mon choix. Je connais que le maréchal candidat, Idriss Déby Itno, est le meilleur et des meilleurs. Donc j'ai choisi le maire.
À quelques jours de cette élection, beaucoup d'observateurs s'interrogent sur ce revirement. En plus de l'appel au boycott lancé par les forces vives, les cartes d'électeurs semblent connaître certaines irrégularités. On parle d'électeurs avec plusieurs cartes et aussi des cartes avec des erreurs ou omissions des noms de leurs détenteurs.
J'ai retiré ma carte. Il n'y a pas mon nom, il y a le nom de mon papa et il y a le nom de ma mère. Donc, je ne peux pas voter. Il n'y a pas mon nom, je veux voter comment.
C'est 33, mais on m'a donné ce mandat. Un a ils sont saisis. Moi, j'ai demandé pourquoi ils ont saisi. Un a dit après, ils vont ramener ça au nouveau décennie. C'est une emballe perdue.
Au 6e arrondissement, une électrice venue pour retirer sa carte a eu une vive altercation avec un agent distributeur, alors que cet agent n'avait pas eu les cartes à distribuer aux électeurs.
Tu vas le dire à Dédi que tu ne vas pas me donner la carte.
Oui,
tu ne me donnes pas.
Vas-y, oui, va lui dire, je te donne.
Depuis une semaine que je viens et tu ne veux pas me donner ma carte, c'est ma troisième fois maintenant pour aujourd'hui. Et pourtant, les gens en train de parler à la radio, récupérez vos cartes, récupérez vos cartes.
Tous ceux qui n'ont pas encore trouvé la juste là.
Dans le 7e arrondissement, la plus grande commune de la capitale qui abritera à elle seule plus de 200 bureaux de vote, beaucoup d'électeurs ont une dizaine de cartes chacun. Contacté par VOA Afrique, le service de communication de la CENI parle d'un problème technique au niveau de l'imprimeur qui est en train d'être réglé. Une situation que dénonce Natoyala Ringar, porte-parole du mouvement des 12 revendications.
La CENI, je pense qu'elle a fait ça fièrement. C'est une machine de vol qui est déjà mise en scène pour le premier tour chaos. Nous sommes même en train de s'organiser pour les présenter publiquement. Au vu aussi de tout le monde, révéler encore tant d'autres choses qui sont obscures. Nous avons en quantité et en qualité, si vous voulez dire.
Pour qu'une élection soit véritablement crédible, il faut que l'environnement électoral soit exempt de violence, de menace et d'intimidation. Si ces trois éléments fondamentaux ne sont pas réunis, l'on ne parlera plus d'une expression libre de suffrage, a déclaré un spécialiste tchadien en question électorale. André Kodumadjingar N'Djamena pour VOA Afrique.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Au Cameroun, la qualité du service public de l'électricité s'est dégradée ces dernières semaines avec des baisses de tension, des surtensions, des interruptions régulières, des variations de fréquence et des incendies récurrents des circuits électriques. Certains quartiers de Garoua dans le nord, de Yaoundé dans le centre, de Douala, la capitale économique, et de nombreuses zones rurales ont été plongés dans le noir. Les opérateurs du secteur de l'électricité annoncent des solutions d'ici la fin d'année 2021. De Yaoundé, la correspondance de Emmanuel Julentap.
Je m'appelle Nadine, je suis élève. J'ai eu coupure de courant 3 fois par semaine.
J'ai un restaurant. Parfois, les coupures de lumière à tout moment, parfois tic-tac.
Moi, je joue au quartier Kono, particulièrement du côté du CEFTA. On est resté dans le noir pendant pratiquement 3 jours.
Des plaintes de ce genre sont enregistrées sur l'ensemble du territoire suite aux graves dysfonctionnements constatés dans la fourniture de courant électrique. De l'or, Magellan Kamsu Kamgeng, président de la Ligue camerounaise des consommateurs.
La Ligue camerounaise des consommateurs n'est pas content du tout de ce qui se passe. Le consommateur a des difficultés à pouvoir mener à bien ses activités.
Dans le restaurant de Charlotte au quartier Bastos, l'un des UP de la capitale, l'instabilité du courant électrique a causé des dégâts.
Comme j'ai un régulateur, ben là je suis en train de réfléchir à acheter un autre régulateur. Quand tu as un restaurant et que tu as le repas dans le congélateur, dès que ça fait pas, toi-même, Tu sais, comme si un câble avait sauté aussi dans ta tête. Ça, ça ressemble au Cameroun, ça.
D'autres Camerounais ont subi des désagréments durant ces jours sans courant électrique. Nadine est élève et se présente à un examen officiel cette année.
Cela a impacté ma façon d'apprendre puisque je n'avais pas à réviser mes leçons. Et si je le faisais, mais je faisais avec une bougie.
Dans certains quartiers de la capitale, comme celui de Léonel, les habitants craignent pour leur sécurité.
L'insécurité est presque partout au Cameroun. Et maintenant, dans un quartier comme celui où il y a tellement de bandits, des braqueurs, c'est pas évident.
Au Cameroun, c'est la société Eneo qui opère dans la distribution du courant électrique. Ses responsables expliquent que certains équipements sont surchargés du fait de la forte croissance démographique et les transformateurs sollicités au-delà de leur capacité de fonctionnement. Le gouvernement annonce que l'offre en énergie électrique va s'améliorer d'ici la fin de l'année. Gaston Elundu-Esomba, ministre de l'eau et de l'énergie.
Des actions de court et moyen terme sont également en cours d'implémentation. Il s'agit notamment du remplacement de 53 000 poteaux bois défectueux par des supports en béton, du démarrage des travaux de construction de 230 km de lignes de distribution en souterrain pour améliorer la qualité de service dans les villes de Yaoundé et Douala.
La région du Nord a été particulièrement affectée par les difficultés de transport et de distribution du courant électrique. Deux incendies ont été enregistrés le mois dernier dans les deux principaux marchés de la ville de Garoua. Un court-circuit causé par des coupures intempestives de l'énergie électrique a été à l'origine des flammes. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Alors que les États-Unis s'approchent de leur objectif de vacciner 200 millions d'Américains d'ici la fin avril, l'administration Biden prend davantage de mesures pour aider d'autres pays. Elle a nommé un coordinateur pour sa réponse mondiale au Covid-19. C'est un reportage de la correspondante de la VOA à la Maison-Blanche, Patsy Widakuswara Yakuba Ouedraogo, pour le récit.
D'ici le 19 avril, tous les adultes aux États-Unis seront éligibles au vaccin, a annoncé le président Joe Biden, soit deux semaines plus tôt que sa date limite initiale du 1er mai.
Nous administrons maintenant en moyenne 3 millions de doses par jour, plus de 20 millions par semaine. Rien qu'au samedi, nous avons annoncé que plus de 4 millions de vaccins ont été administrés. Nous sommes le premier pays à administrer 150 millions de vaccins et le premier pays à vacciner complètement près de 62 millions de personnes.
Sous la pression d'autres pays pour partager les vaccins un peu plus tôt cette semaine, Biden a nommé Gail Smith au poste de coordinatrice de l'administration de la réponse mondiale au COVID-19. Smith est une experte de la santé mondiale qui a plaidé pour l'expédition de vaccins excédentaires à l'étranger.
Le leadership américain est désespérément nécessaire et je suis très confiante que nous pouvons être à la hauteur.
Alors que de nombreux pays à revenus faibles et intermédiaires ont commencé à vacciner avec des vaccins chinois et des doses provenant de COVAX, le mécanisme mondial de partage des vaccins des Nations Unies, les experts estiment que les États-Unis peuvent faire beaucoup plus au-delà de fournir des doses excédentaires. Stephen Morrison, chercheur au Centre d'études stratégiques et internationales.
Cela peut aider à accroître la capacité de fabrication comme objectif. Cela peut apporter de l'ordre et de la transparence sur le marché des vaccins du monde entier, qui n'est pas transparent et qui est chaotique et irresponsable pour le moment.
Mardi, Biden a également visité un site de vaccination dans une chapelle de Virginie. Son administration a lancé une coalition de chefs religieux et communautaires pour aider à persuader les Américains réticents à se faire vacciner, environ 20% selon les sondages. Les Américains défient également de plus en plus les protocoles de santé. Beaucoup ont célébré une victoire au basketball universitaire plus tôt cette semaine. William Schaffner est professeur à l'Université Vanderbilt dans l'État du Tennessee.
We have over 60,000 new cases Nous avons plus de 60 000 nouveaux cas survenant chaque jour et les jeunes adultes sont maintenant les vecteurs. Ils propagent ce virus, ils vont à des jeux de balles, ils vont dans des restaurants et des bars.
Selon la Maison-Blanche, environ 40% des adultes aux États-Unis ont reçu au moins une dose de vaccin anti-COVID-19 et près de 20% de la population totale est entièrement vaccinée.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Michel Joseph, Joselle Morissin et Lionel Lunanila Gahima. Eric Manirakiza était à la présentation. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, un seul site internet, voaafrique.com. Sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. À la prochaine.